Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, bon mardi. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous ne perdez pas un peu votre voix comme moi. J'espère qu'elle sera là pour les 28 prochaines minutes, qu'elle tiendra le coup. C'est Marianne Paquette au micro pour cette émission de C'est bon pour la santé. Souvent, lorsque l'on pense aux médecins de famille, c'est souvent des critiques hein, qui vont fuser. Souvent, on va leur reprocher la difficulté d'accès. Mais il y a aussi des bons coups auprès des médecins de famille. Là, on pourrait penser à cette initiative de l'automne dernier, à savoir que les médecins de famille au Québec peuvent maintenant prescrire de l'activité physique. Il y a d'autres bons coups, je vous en parle aujourd'hui. D'ailleurs, le 10 novembre dernier, le Collège des médecins de famille du Canada rendait hommage à 10 médecins de famille à travers le pays, dont le docteur Rénal Bergeron, qui fait partie de ces médecins honorés pour la province ici du Québec. Et à travers ce prix-là, que l'on nomme le prix Reg L. Perkin, on désire souligner la contribution exceptionnelle de ces médecins-là, des médecins envers leurs patients, également envers leur communauté. On désire remercier le docteur Bergeron pour l'avancement de la médecine parce qu'il y a contribué, on va le découvrir tout à l'heure, également son engagement en tant qu'éducateur auprès des prochaines générations de médecins parce qu'il est éducateur et également doyen de la faculté de médecine du côté de l'Université Laval. Alors, il sera là tout à l'heure, le docteur Rénal Bergeron, pour nous parler de ce prix-là. Et qu'est-ce que ça peut changer, un prix comme celui-là, dans une carrière déjà bien remplie? On le joindra du côté de Québec. Et puis, je vous rappelle que c'est le Salon du livre qui débute dès demain à Montréal, à la place Bonaventure. Et à travers C'est bon pour la santé cette semaine, j'avais envie de souligner l'apport de la lecture dans nos vies, ses nombreux bénéfices pour notre santé, et ce pour tout le monde. Hein. On a pu l'observer, la lecture c'est bon pour les personnes aînées qui sont en perte de vision. On a pu l'observer à travers la tournée Relire, organisée, ici chez Vues et Voix, mais également pour le développement psychosocial, cognitif des tout jeunes enfants. Donc vraiment pour toute la population, la lecture a de nombreux bénéfices. Aujourd'hui, avec Céline Châtenoux et Delphine Odier-Gedge, elles, tous deux professeurs au département d'éducation et de formation spécialisée de l'UQAM, on se pose la question, qu'est-ce que la lecture peut apporter à des jeunes autistes? On les écoute à l'instant. Bonjour mesdames, merci d'être là.
Bonjour.
Vous êtes à côté là, à l'UQAM, c'est juste à côté de nos studios. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Un sujet qui est un peu costaud aujourd'hui, évidemment, on se le disait en 15 minutes, on ne pourra jamais tout couvrir ce large sujet, mais ça m'intéressait beaucoup de poser cette question. Et je veux débuter cette discussion avec une citation de peut-être l'une de vos collègues, cette psychologue Christa J'appelle, oui, qui est psychologue du développement et professeur à l'Université du Québec à Montréal. Et je lisais une entrevue qu'elle a menée dernièrement, une phrase qui a vraiment retenti, qui a fait résonner beaucoup de choses en moi. La littératie est la clé du succès à l'école. Au début, on apprend à lire, mais après, on lit pour apprendre. Ça, c'est le cas pour bien des gens. C'est le cas aussi, j'imagine, pour de jeunes autistes.
Oui, alors tout à fait. Merci aussi de l'invitation. On est très contentes toutes les deux de participer à cette émission qui va parler un petit peu du rapport à la lecture des jeunes qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Et oui, effectivement, la lecture en tant qu'objet culturel est vraiment à exploiter dans notre pratique d'enseignement et aussi dans la vie courante. Hein. On parle aussi en famille. Que ces personnes-là puissent rentrer et comprendre aussi la culture. Donc oui, lire, c'est apprendre à décoder, mais c'est surtout apprendre à partager un certain nombre de références culturelles à l'écrit et à l'oral. Donc,
Est-ce que d'entrée de jeu, pour un jeune, un enfant qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme, est-ce que décoder, c'est déjà une difficulté?
Oh, ça serait difficile de pouvoir répondre de façon très générale à cette question. Parce qu'on le sait maintenant, hein, tous les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme sont très différents.
Oui.
Hein, selon le trouble qu'ils ont, et puis aussi par rapport à leur caractère, et surtout et avant tout par rapport à l'intérêt qu'ils trouvent à la lecture.
Ouais.
Hein, c'est surtout cette condition-là. Est-ce que je sais ce que ça veut dire, lire? Est-ce que je suis rentrée dans cette culture du livre? Comment j'y suis rentrée? Alors, ça va beaucoup conditionner, bien sûr, leur apprentissage du décodage. Puis la lecture, c'est loin d'être uniquement du décodage. C'est surtout beaucoup d'autres choses que le décodage. C'est comprendre l'univers, comprendre le sens de cet univers fantastique qui nous est proposé, ou très pragmatique lorsqu'on lit une recette de cuisine. Mais il faut aussi se rendre compte que si on lit notre recette de cuisine, c'est parce qu'on peut en faire quelque chose. Alors, c'est très complexe, la question de la lecture. On a du mal à parler de la lecture, mais plutôt des lectures. Il y a tout un tas de lectures différentes. Il y a énormément de supports différents pour lire, aussi bien pour un album de littérature jeunesse avec très peu de mots. Il y a même des lectures que l'on pourrait penser silencieuses. Hein? Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de différences selon les enfants et selon le support qui est utilisé. Ce qui est certain, par contre, c'est qu'on a beaucoup d'a priori sur l'idée que certains enfants, parce qu'ils ne parlent pas beaucoup, hein, ou parce qu'ils ont une manière de parler inhabituelle, on va dire comme ça, hein, parce qu'on doit faire, court, ne pourraient pas accéder à la lecture. Alors ça, c'est vraiment un stéréotype sur lequel il faut qu'on arrive tous ensemble, culturellement, à revenir. C'est pas du tout vrai, hein. Les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou d'autres particularités, hein, où le langage oral est moins développé, ont absolument accès à la lecture.
Et à la littérature.
Et à la littérature, exactement.
Est-ce que l'on pourrait penser que certains livres sont plus adaptés pour eux, ou encore une façon d'amener le livre, de l'introduire auprès d'eux, pourrait être plus appropriée?
C'est ça, exactement. Il n'y a pas un livre qui correspond à un niveau d'âge. Il n'y a pas une manière de faire qui correspondrait aussi pour tous les enfants. Hein. On en revient toujours à cette variabilité. Par contre, c'est certain qu'on va devoir adapter un certain nombre d'éléments. Par exemple, un enfant très jeune aura plus d'intérêt, de facilité à aller voir des albums de littérature, par exemple, qui sont très illustrés. Mais on va trouver un étudiant à l'université qui va lire des œuvres comme nous les lisons à l'université, malgré son trouble du développement. Par contre, les enseignants de leur côté et puis les parents d'un autre côté, c'est sûr qu'il y a beaucoup de petites astuces que l'on peut utiliser pour médiatiser la littérature, c'est-à-dire essayer de rentrer dans toutes ces zones un petit peu d'incompréhension qu'on pourrait avoir, par exemple, par rapport à certains textes. Alors, exagérer la voix pour accéder aux émotions, par exemple. Si vous voulez, je vous montre ce que ça donne.
Oui, vous avez un bouquin devant vous. Alors, Delphine Toc Toc, qui est là, Sally Greenlee, Anthony Brown, hein, c'est ça, qui est un auteur assez prolifique, Anthony Brown, je le connais bien, assez rigolo également. Donc, ça pourrait être un exemple d'un bouquin qui fonctionne bien avec des jeunes qui présentent un trouble du spectre, oui, de l'autisme.
Exactement. C'est un de nos best-sellers des écoles, hein, qu'on utilise. Beaucoup de familles aussi l'utilisent. Pour faire rapide, c'est l'histoire d'une petite fille qui est dans son lit et quelqu'un toque à la porte. Toc, 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 sans arrêt. Et puis, différents personnages vont arriver en ouvrant cette porte et en lui faisant des blagues. Il y a un petit indice qu'il faut essayer de percevoir dans le livre pour se rendre compte qu'en fait, au final, c'est le papa qui s'est déguisé. Mais tout ça, c'est très implicite. Et donc, il faut aider l'enfant à se rendre compte de cette blague qui est proposée à son enfant. Et donc, la petite fille va ouvrir la porte, d'accord, les personnages vont rentrer et ensuite, de façon répétitive, elle va toujours dire la même chose. C'est un élément important pour les enfants parce qu'on a une récurrence, quelque chose qui revient sans arrêt. Alors, on peut s'arrêter dans la lecture et attendre que les enfants continuent à parler. Alors, si on veut aider l'enfant à comprendre le mécanisme de ce livre et aussi à rentrer à l'intérieur de l'histoire, on va pouvoir médiatiser de cette manière-là. Là, donc, je vous en lis un petit bout.
J'adore ça.
Toc, toc, toc. Qui est là? Je change de voix. C'est moi, le fantôme effrayant, au visage blanc comme un linge. Et aux chaînes cliquetantes, quand tu me feras entrer, je te hanterai. Alors, tu n'entreras pas. Hein? Donc là, je n'ai pas de support visuel à vous montrer, mais bien évidemment, pour aider la compréhension, on va apporter un drap de fantôme.
Oui.
On va se cacher comme le fantôme. On va utiliser des chaînes. et on va faire le bruit des chaînes. Donc, on va pouvoir essayer de jouer à la fois sur la voix, à la fois sur l'image et sur un support en trois dimensions qu'on va apporter pour permettre de comprendre toutes les références. Qu'est-ce qu'un fantôme? Pourquoi il y a un linge? Pourquoi il y a un drap? Pourquoi il y a des chaînes? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut aller chercher dans notre univers culturel pour comprendre cet univers qui nous est proposé à l'intérieur de la littérature?
Donc, si je comprends bien, une multitude de supports afin d'accompagner l'enfant et également des références, de ne pas lésiner sur l'explication des références. En même temps, je me dis, parce que évidemment, on se met dans la peau des parents aujourd'hui, on pourrait se mettre également dans la peau des éducateurs, des enseignants, mais je préfère prendre le parti pris des familles. Ça s'apprend, tout ça, c'est un apprentissage en tant que parent d'accompagner son enfant qui a un TSA dans son apprentissage et son envie de lecture.
Alors oui, effectivement, l'année passée, à peu près à la même époque, on a publié d'ailleurs un livre sur la famille et la personne qui a un trouble du spectre de l'autisme. Et une des caractéristiques de ces familles est justement d'assez tôt dans le développement de ces enfants, puisque c'est des enfants qui sont dans une interaction très spécifique. Les parents sont très sensibles à ces signes dès le plus jeune âge. Et justement, de faire confiance en cette sensibilité qu'ils ont. Et très tôt, même si l'enfant n'est pas verbal, parce que ces enfants peuvent parler beaucoup plus tard que les enfants tout venant. On dirait que les parents sentent ça. Tiens, il faut que je lise, il faut que lire, c'est pas seulement pouvoir parler, c'est pas seulement pouvoir décoder, c'est aussi comprendre. Et même si l'enfant, pour une personne tout venant, on a l'impression qu'il comprend pas, ses parents sont souvent plus sensibles au fait qu'ils comprennent. Et c'est une occasion aussi de partager avec eux quelque chose dans la littérature qu'ils utilisent en famille. Et les parents, bien souvent, utilisent très, très bien les textes, justement, les histoires, pour aider leur enfant de manière, peut-être spontanée, mais souvent très justement, en utilisant la bonne intonation, en ayant vraiment cet ajustement vis-à-vis de l'enfant. Donc, moi, j'encourage les familles à continuer à prendre les albums qu'ils ont pris dans leur petite enfance, les comptes courants pour faciliter justement cet accès qui est parfois difficile pour les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, pour les enfants, tant en lien avec le développement du langage, avec la difficulté de lire plus tardivement, etc. Mais par contre, ça ne présume pas qu'ils ne comprennent pas. Et ça, c'est bien important. Et moi, je tire souvent plus des leçons de ce que les parents font avec leur enfant plutôt que
l'inverse.
Que l'inverse.
Ce sont les experts. Hein.
Oui, tout à fait.
Exact.
Mm-hmm.
Ouais.
Il y a un petit acronyme, si je peux me permettre de rajouter, qui aide bien à se rappeler peut-être très souvent comment on peut jouer justement avec tous ces textes. C'est le ABC. D'accord? C'est tout
simplement.
Simple. ABC, animer, bouger, pour comprendre. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment très simple. Et ça, les parents sont experts dans l'animation. Je pense qu'ils le font tout le temps, hein, d'animer, de mettre en scène, d'utiliser leurs doigts pour mimer, de montrer des images.
Ça se fait instinctivement.
Ça se fait instinctivement. Ouais, ouais. Donc, prendre confiance et continuer, c'est vraiment la meilleure piste.
Et puis, peut-être, ce qui est unique pour les parents, et puisque nous, en tant que... quand on travaille avec les enseignants, on dit allez demander aux parents, c'est qu'ils connaissent les intérêts de l'enfant. Et ça, c'est vraiment excellent de dire, ben, tiens, mon enfant, il adore les trains, etc. Je vais prendre des livres qui ont voir avec ça. Et puis, on dit, ah, ben, ils ont souvent des intérêts restreints, ça limite leur apprentissage. Mais non, au contraire, si on part de ça, si on se dit, ben, tiens, on va pouvoir exploiter cet intérêt, puis lire, puis diversifier les lectures, ben, justement, là, les parents sont les experts de ça aussi.
Oui. Mais en même temps, si notre enfant, on le sait, on le connaît, aime les trains ou les insectes ou je ne sais trop, on peut d'abord et avant tout amener des bouquins là-dessus pour susciter son intérêt. Ça peut être une bonne voie à utiliser, j'imagine.
Et la littérature a ce pouvoir et cette chance d'être constituée en réseau. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ouvrages sur les trains. Il y a beaucoup d'ouvrages sur les insectes et aussi dans des champs très différents. Puis avoir des insectes en tant que personnage, mais aussi des documents scientifiques.
De la BD,
etc. Voilà. Donc, on peut vraiment travailler en réseau. Et puis, les insectes finissent quand même par rencontrer d'autres animaux. Donc, on peut partir de ces rencontres pour doucement aller vers d'autres intérêts. Et on tisse comme ça un maillage incroyable,
tout un univers
qui va se compléter. Et on sort des intérêts qui sont au départ très plus restreint, on va dire, pour justement ouvrir à cette culture.
Et ça m'amène, Delphine, ça, lorsque vous dites sortir d'intérêt restreint, c'est d'amener l'enfant qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme à rencontrer l'autre, qui, on le sait, parfois, on ne veut pas généraliser, hein, on le sait, ils ont tous leurs défis bien particuliers, mais parfois, une difficulté dans les interactions sociales, interpersonnelles. Est-ce que la lecture peut aider ces jeunes-là?
Bien sûr, ça nous met en commun. La lecture, ça nous permet de partager. Hein. C'est vraiment... Et on partage avec beaucoup plus qu'un support oral. Mm-hmm. Hein, on peut aussi très bien utiliser les images pour partager, le mime. Toutes ces choses-là que l'on va faire ensemble nous permettent de partager autour de ces éléments-là. Et donc, il y a de la rencontre en permanence dans la littérature, aussi parce qu'il y a plusieurs personnages. Mm-hmm. Alors, les enfants dans les classes, on travaille beaucoup avec ça, vont interpréter des personnages, et donc ils vont apprendre aussi à voir comment on fait pour interpréter un personnage avec un autre personnage en face. Hein, quand est-ce qu'on... C'est quand mon tour de parole, oui. Comment je pose une question, quel type de mimique je fais. Mmh. Et puis, comme on est dans la littérature, comme on est dans le fantastique, on va tout exagérer, vous comprenez bien. Donc, c'est facile d'exagérer pour ensuite, dans le quotidien de nos vies, revenir à quelque chose de moins exagéré, moins amplifié. Mmh.
Oui, puis ce qu'on sait aussi quand on commence à avoir de plus en plus de témoignages de personnes qui ont syndrome d'Asperger plus âgées qui ont dit que la lecture, l'écriture, l'écrit leur ont permis de mieux comprendre les choses, d'entrer justement dans le monde social, mais à travers un support qui est moins complexe dans le fond. Donc il y a toutes sortes d'angles qu'on peut prendre pour profiter du livre et aussi pour une adaptation dans les deux sens.
Puis, il y a des mécanismes qui sont vraiment essentiels aussi dans l'apprentissage de la lecture pour des personnes qui ont peut-être une difficulté plus prononcée à oraliser. C'est qu'enfin, pour eux, les mots sont bien distincts. Hein? C'est-à-dire que...
Chaque mot a sa fonction, à quelque
part. Oui, chaque mot a sa fonction. Et puis, quand on lit, il y a un petit blanc entre chaque mot. Donc, je sais que d'ici à ici, c'est un mot bien précis. Vous savez, les enfants, c'est un phénomène qui n'importe quel jeune enfant va avoir à comprendre aussi. Et la plupart des enfants disent « j'ai vu le nez éléphant ». Alors, pourquoi ils disent « j'ai vu le nez éléphant » ? C'est parce qu'ils ont des difficultés au début dans la chaîne de l'oral à comprendre que c'est un éléphant et que ce n'est pas un éléphant. Mmh. Donc, le mot « éléphant » peut devenir le mot « n'éléphant ». Ça, c'est fréquent dans la chaîne orale, parce que quand je parle, on ne sait pas très bien où s'arrête et où débute le premier de mes mots, le deuxième. Quand on lit, enfin, ça devient très clair. Il y a un petit blanc entre chaque mot. Alors ça, c'est une aide aussi énorme pour des enfants qui disaient un trouble du spectre de l'autisme ou n'importe quelle autre difficulté au niveau du langage oral.
Oui.
Alors, on récupère beaucoup de pouvoir aussi... à comprendre tous ces éléments-là. Et donc, ça nous permet d'office de mieux interpréter ce que l'autre est en train de nous dire à l'oral.
Est-ce que les outils techniques, je pense à des tablettes, par exemple, ça pourrait être certains logiciels, bon, tout ce qui est à notre portée, que ce soit dans les écoles ou dans les familles, peuvent aider les jeunes autistes à peut-être dans leur apprentissage de la lecture, dans leur découverte également?
C'est toujours ce qu'on en fait qui aide, ouais. Plus que l'objet lui-même. Oui, bien sûr, c'est une aide incroyable. C'est une aide aussi à la vocalisation. C'est une aide parce qu'on peut aussi... Il y a des petites applications qui nous permettent de créer aussi... Hein, des bandes dessinées ou bien du texte, se le faire lire, se le faire entendre. Ici, on est dans le royaume des livres lus. Mmh. Alors oui, bien évidemment, tout ça, ça peut être beaucoup d'aide. Je dirais que ce n'est pas l'outil lui-même qui fait l'aide.
Hein. C'est vraiment la façon dont on l'utilise.
Voilà, parce qu'on serait seul devant notre tablette à regarder un livre. Ce n'est peut-être pas tout à fait la même chose que si quelque chose se crée grâce à cette tablette dans une interaction.
Oui.
Alors...
C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup justement avec les enseignants. Donc à l'UQAM, on propose un diplôme d'éducation spécialisée pour l'enseignement et l'apprentissage pour ces élèves-là. Et il y a un cours entier justement de comment on peut aider les enseignants pour se saisir de tous les outils, qui peuvent être utilisés auprès de ces élèves et pour exploiter l'écrit pour permettre la participation sociale de ces jeunes dès le plus jeune âge et la compréhension aussi de la complexité de la relation sociale.
Oui. Ouais. Mais ce que je retiens, parce que bien sûr, là, on se dirige vers la conclusion, c'est que tout ce rapport-là au livre, à la lecture qui se fait avec le parent, va toujours finir par valoriser la relation, le contact, la stimulation, valoriser aussi l'affection que le parent et l'enfant ont ensemble. Donc, à quelque part, c'est juste du bon, tout ça, la relation parent-enfant et livre. C'est un trio...
Parfait.
Oui! Mais merci beaucoup, mesdames, parce que vous avez conforté l'une de mes pensées, de mes certitudes, en fait, à savoir qu'il n'y a pas de limite à la lecture et qu'il y a tellement de voies à explorer et qu'on peut vraiment créer beaucoup de choses là, autour de la lecture avec tout type d'enfants qui ont différents défis. Merci, c'était vraiment très éclairant, très intéressant. Je le rappelle, Céline Châtenoux, Delphine Odiegedge, vous êtes toutes deux professeures au département d'éducation et de formation spécialisée de l'UQAM. Mmh. En terminant, peut-être des propositions de lecture. Mmh. On a ce bouquin-là. Est-ce que vous avez peut-être des sites ou des titres qui pourraient inspirer nos parents?
Là encore, quel âge, quel enfant? On pourrait peut-être diffuser une liste? qu'on pourrait vous envoyer
ça.
Avec quelques indications plutôt que de lancer des titres à la volée.
Je vous donne encore du travail.
C'est ça.
Est-ce qu'on se croise au Salon du Livre?
Oui, on va faire un tour.
On va essayer, en tout cas.
Au plaisir de vous
Merci
croiser.
De nous avoir accueillis pour ce beau sujet.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse. Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Docteur Rinald Bergeron, bonjour.
Bonjour.
Il fait beau à Québec?
Oui, très beau, un beau soleil.
Et c'est aussi le cas à Montréal, on est bien chanceux. Docteur Bergeron, vous êtes récipiendaire de ce prix Reg L. Perkin qui reconnaît les meilleurs médecins de famille à travers le Canada. Or, vous êtes médecin depuis 1980. Vous exercez la médecine là, depuis plusieurs années. Vous êtes doyen de la faculté de médecine de l'Université Laval et bien d'autres choses. Qu'est-ce que ça change, un prix comme celui-là, dans une carrière en médecine qui est déjà bien remplie?
Bien, après 35 ans de pratique, ça vient me réconforter des engagements pris depuis ces années. C'est très émouvant de recevoir un prix qui est décerné par les pairs, mm-hmm. un prix qu'on n'a pas sollicité. C'est très honorant aussi. Mais ce que j'en dis, c'est que pratiquer puis enseigner la médecine de famille, pour moi, ça a été me mettre au service de mes patients puis des étudiants. Et j'ai toujours trouvé ça très fascinant et stimulant. Mais ça a été aussi, au contact de ces mêmes patients et étudiants-là, apprendre à vivre mm-hmm. et me transformer avec eux. Puis j'ai beaucoup de reconnaissance pour la chance que j'ai eue de pouvoir travailler comme ça. Mm-hmm. Puis je suis très redevable aussi à tous les collègues avec qui j'ai travaillé qui m'ont permis de développer mes capacités, qui m'ont soutenu, qui m'ont apporté du compagnonnage, de leur expérience, de leur appui. Et c'est comme ça qu'on arrive à développer ces carrières qui, vues vers la fin de la carrière, apparaît peut-être assez importante aux yeux de certains. Mais je reçois ça avec beaucoup d'humilité. Parce que c'est grâce à tout le monde autour de moi que j'ai pu réaliser cette si belle entreprise.
Oui. Docteur Bergeron, vous êtes doyen de la faculté de médecine de l'Université Laval, donc près des futurs médecins du Québec. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre à ces jeunes-là?
Je vais vous dire succinctement comment, dans notre plan stratégique récent à la faculté, on s'est engagé à développer le concept de santé durable à l'intérieur du développement durable dans une perspective de responsabilité sociale. En fait, on veut former des professionnels, médecins et autres professionnels de la santé qui vont être aptes à bien et mieux répondre aux besoins des individus et des populations, puis aussi être capable de s'adapter au changement de ces mêmes besoins-là dans nos sociétés. Apprendre à accueillir les gens quand ils en ont besoin, à leur donner des services qui vont être utiles, à leur donner des conseils aussi pour préserver leur santé et pas juste les traiter quand ils sont malades.
Mm-hmm. C'est quoi les grands enjeux qui entourent la médecine de famille en ce moment au Québec?
Bien, on en entend parler de partout. C'est sûr que d'être capable de répondre à l'ensemble de la population en temps utile reste un défi.
Oui.
Actuellement, on se met en position d'être capable de mieux en mieux répondre à ce défi-là par une augmentation du nombre des médecins qui vont se former en médecine familiale et qui vont se distribuer dans le territoire. Ça fait plusieurs années que le Québec a commencé une démarche de doter des médecins de famille dans l'ensemble de son territoire. On est passé de il y a 10 ans à peine à maintenant de 40% à l'entrée dans les programmes de résidence des médecins de famille. On est rendu à 50 quelques%. Et d'ici 2017, on espère atteindre les 55% des médecins qui vont choisir la médecine familiale comme entrée dans les programmes de résidence.
Mm-hmm.
Donc, on va être capable de se distribuer mieux dans l'ensemble du territoire québécois pour offrir à toute personne qui le souhaite un accès à un médecin de famille.
Oui. Et en même temps, et ce sera probablement la dernière question parce que le temps file déjà, Dr Bergeron, il y a de belles réussites, de beaux progrès et je pense à cette initiative qui a été mise de l'avant cet automne, c'est-à-dire que maintenant les médecins de famille au Québec peuvent prescrire de l'activité physique. Ça, c'est une belle avancée déjà.
Tout à fait. Vous savez, quand on prend une formation en médecine, les gens pensent qu'on est là toujours pour soigner et guérir, mais si on peut prévenir, si on peut enseigner aux gens à être leurs propres responsables de leur santé, mm-hmm. en développant des comportements qui protègent la santé, ça va aussi contribuer à diminuer, je dirais, les besoins de soins comme tels, puisque si on préserve notre santé, on aura moins besoin de consulter.
Oui, ça fait aussi partie de votre rôle de mettre de l'avant les saines habitudes de vie et la prévention. Hein?
Oui, la nutrition, l'activité physique, la protection contre les produits toxiques de toute nature, que ce soit des consommations excessives d'alcool, de drogue, mm-hmm. de mauvaises habitudes de comportement, c'est aussi des éléments qu'on doit tenir en compte oui. dans le développement des professionnels de la santé.
Dr Rénal Bergeron, je le rappelle, vous êtes récipiendaire de ce prix Reg L. Perkin qui reconnaît les meilleurs médecins de famille à travers le Canada. Félicitations, on est très fiers de vous ici au Québec et merci beaucoup pour cet entretien.
Je vous remercie infiniment et bonne fin de journée à vous.
Au revoir.
Bonjour.
Jean-Sébastien La Liberté était de retour aujourd'hui derrière la console. Christiane Campagnat à la recherche. Marianne Paquette au micro. Demain, bien, on continue cette série de discussions, d'entrevues autour de la lecture et de ses bénéfices pour la santé. Et je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.